18-19, le magazine.
Bonsoir, c'est Onde Noire, une émission sur l'actualité du polar présentée par La Noire Aude.
On sait par une petite, on va dire, mauvaise nouvelle, puisque un écrivain, Justo Vasco, a disparu il y a environ une quinzaine de jours, je crois à peu près 3 semaines, et nous voulons lui rendre un tout petit hommage. Donc Justo Vasco, c'était un écrivain cubain. Avait fait, comme beaucoup de monde à cette époque-là, ses études à Moscou. Il était docteur en physique chimie, et revenu à La Havane, il avait commencé à écrire en tant que journaliste, et il avait commencé à collaborer sur 3 romans avec un autre grand écrivain sud-américain, qui est lui uruguayen, c'est dur à dire, Daniel Chavarria. Et on le connaissait en France pour 2 livres, donc un écrit avec Daniel Chavarria qui était « Underground », et le deuxième, un très très bon roman sorti, je crois, il y a 4 ans environ, qui s'appelait « L'œil aux aguets »
à la série noire,
et qui est paru à la série noire. Donc si vous pouvez trouver ce livre, c'est vraiment un excellent roman qui est un très bel hommage, entre autres. Il parle beaucoup de Cuba et de toute la vie qu'on mène là-bas actuellement. Mais c'est entre autres un très très bel hommage à Fenêtre sur cour d'Hitchcock, puisque le personnage principal épie constamment, en buvant du thé, ses voisins et l'ensemble de ses... Ah oui, c'est un très très beau roman. Et ce qui est très étonnant, c'est que en épiant ses voisins, un jour, il décide de tuer d'autres personnes pour rien, comme quand il boit une tasse de thé. Et c'est vraiment, il est pas très gros ce roman, il est très dense, il est très intéressant parce que on voit de l'autre côté les flics et tous leurs problèmes, parce que par exemple ils font des photos de la scène du crime, mais il n'y a pas d'argent
pour développer
la pellicule, ou ils n'ont pas d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Enfin, c'est vraiment un très très bon roman, donc un petit hommage, voilà, Justo Vasco, et je recommande de L'œil aux aguets à la série noire, il doit toujours être disponible. Alors on va parler de quelque chose par contre qui est paru très très récemment, Alain.
Oui, un roman qui est paru il y a peu de temps aux éditions Métellier. C'est un roman italien. Le titre italien est resté sur la couverture en français, c'est « Romanzo criminal » et en sous-titre on peut dire « Roman criminel ». C'est traduit par Serge Quadrupani et sa copine Catherine Siné. Et c'est un roman de Giancarlo Cataldo, qui fait 600 pages, c'est un beau pavé. Alors ce roman au criminal est un grand roman noir, mais il est bien plus que cela. C'est aussi un roman historique comme le sont ceux de James Ellroy. Il nous raconte les 1001 histoires souterraines qui ont composé et décomposé l'Italie depuis l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges le 16 mars 1978 jusqu'aux années récentes, c'est à la chute du mur de Berlin. Le roman d'ailleurs s'arrête en 1992 en réalité. C'est ce qu'on appelle les années de plomb. Le pays est mis à feu et à sang par les extrémistes de gauche comme de droite. D'ailleurs, Cataldo s'arrête longuement sur l'attentat de 1980, qui avait fait plus de 80 morts. Un attentat qui n'a jamais été élucidé, mais qui est attribué à un groupe fasciste. L'État, est plus préoccupé par la montée des gauchistes et des communistes que par la lutte contre le grand banditiste, et il laisse faire. Et à cet état de fait s'ajoute, comme une coïncidence, un hasard improbable, la rencontre de ceux, tous affublés d'un surnom, le Libanais, le Froid, le Noir, le Dandy, qui vont créer la bande de la Magliana, du nom d'un quartier de Rome. Leur objectif, faire main basse sur la ville. Tout est contrôlé, la drogue, les bordels, les cercles de jeu, la prostitution, les machines à sous. Le territoire est quadrillé comme une organisation pyramidale. Cataldo nous met son magistral l'ascension fulgurante en nous donnant les faits, rien que les faits. La bande de la Magliana devient incontournable, aussi bien pour les politiques que pour les administratifs. Tout le monde est servi, les avocats véreux font et défont les décisions de justice, tout semble pourri. ce que je raconte là est absolument authentique.
En plus, oui, c'est ça qui est le plus terrible dans l'histoire.
Voilà, c'est absolument authentique. Je parle plus de roman historique, mais en même temps, Cataldo utilise les ressorts du roman noir. Et c'est un peu ce que je vais dire maintenant, c'est parce qu'effectivement, il introduit des personnages qui vont résister. Alors, il y en a deux. Il y a le juge Borgia et le commissaire, alors il a un nom pas possible, Scaloggia, ce qui m'étonne parce qu'il y a un J alors que le J n'existe pas en italien. Enfin bon. Qui, bien qu'on leur mette des bâtons dans les roues, poursuivent inlassablement leur tâche. Scaloggia est le plus intéressant des personnages. Il est très ambivalent. Il est amoureux, par exemple, de la fiancée du dandy, qui est le seul personnage féminin attachant du livre. Très, très attachant. C'est un homme très intelligent qui n'hésite pas à sortir du droit chemin de la légalité pour, je cite, « baiser le plus de bâtards possible ». Et puis, il y a un autre personnage, caché, qu'on appelle le vieux. C'est un vieil anarchiste, collectionneur d'automates. La métaphore est évidente. Une sorte de deus ex machina qui semble tirer les ficelles de ces histoires passablement mêlées. Qui semble faire et défaire l'histoire avec un grand H. Tout simplement, il est le pouvoir. C'est un roman de dialogue, tout en verve crue. On comprend l'intérêt qu'ont pu lui porter les cinéastes. D'ailleurs, le roman Romance et Criminal est adapté par Michele Placido et sort en mars sur les écrans français. Il est important de noter que Giancarlo Di Cataldo, et je l'ai gardé pour la fin, l'auteur est juge auprès de la Cour d'appel de Rome, d'où cette mine de renseignements qu'il a eue sous les mains.
Oui, c'est absolument étonnant de penser qu'en plus, il a pu tout écrire... que ce soit édité, et apparemment, moi j'ai eu l'attaché de presse au moment où le roman est sorti, et il n'a pas du tout été inquiété, parce que bien, tout ce qui a été mis là-dedans est totalement vrai, donc de toute façon, il valait mieux ne rien dire pour les pouvoirs, pour le pouvoir encore en place, que de commencer à l'attaquer et interdire le livre, parce que de toute façon, il avait toutes les preuves en main et il n'aurait absolument rien pu contre lui.
D'où les surnoms, d'ailleurs.
Oui.
Et au début du livre, il y a une liste très très longue de tous les protagonistes. Le Libanais, qui est le fondateur de la bande de la Maglia, qui va se faire descendre. Puis après, le froid, le dandy, les chefs, etc. Il va y avoir des alliances avec la mafia. Et puis, ça va finir, évidemment, en massacre absolu. Et voilà, c'est un roman que je trouve absolument prodigieux. C'est sûrement un des plus beaux livres que j'ai lus cette année.
On est qu'au mois de février. T'as encore le
oui,
temps.
Oui, enfin, je rapproche ça vraiment de ce que fait Elroy. D'ailleurs, il voulait l'appeler, trouver un roman, il voulait l'appeler Italia Tabloïde.
Italian Tabloïde, oui. On avait déjà fait Tabloïde.
Et moi, je préfère Roman Criminal, qui est un
et
beau, très beau
donc
titre.
Donc le film dont tu parlais sort avec le même titre,
Roman Criminal. Donc il est mis en scène par Michele Placido.
Voilà, et je sais que Michele Placido tournait en France, mais ne passera pas par notre région, puisqu'on avait essayé de demander s'il y avait une possibilité de projection, et il n'y aura pas de projection particulière dans la région. C'est bien dommage, parce que c'est un roman très, très intéressant. Je ne sais pas du tout comment ça peut être mis en scène, tellement c'est foisonnant.
Oui, alors c'est ça. Moi, j'aimerais voir le film, évidemment, parce que je me demande, il y a il y a une bonne trentaine, quarantaine de personnages. Bon, ils n'ont pas tous le même rôle, mais quand même, disons qu'il y a au moins une quinzaine de personnages qui ont un rôle important.
Un des endroits multiples, il y a cette histoire du vieux, justement, qui est...
Alors le vieux, on a reproché à Cataldo, finalement, l'invention du personnage du vieux. Et finalement, moi, je suis pas trop d'accord avec ce reproche, parce que ce vieux permet de montrer à quel point il y a des imbrications entre la mafia, entre le pouvoir en place, entre même ces disques qui se sont fait complètement piéger, etc., etc. Et il faut savoir que c'est un livre qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires en Italie. Voilà, donc le titre, Romance criminale, c'est de Giancarlo Di Cataldo, c'est paru chez Métellier, et ça vaut 23 euros.
Alors, qui peut paraître cher, mais vu les 600 pages et la densité, c'est vraiment un roman à se procurer. Alors, juste une petite, c'est pas une anecdote, une petite précision. Ce roman inaugure une nouvelle collection chez Métellier, qui s'appelle Grand Écran, qui vont donc être des romans, qui seront des romans originaux, qui seront pas des scénarisations ou je sais plus comment ça s'appelle là quand
c'est
on
ça,
tient. Ouais. Des romans qui vont être portés à l'écran au moment où la traduction française arrivera.
Justement, tout à l'heure, je disais à propos des surnoms. Il a donné des surnons à tout le monde pour pas qu'on puisse reconnaître. Parce que ça, c'est la protection, comme en France, on n'a pas le droit. Par contre, il y en a un qui est cité. C'est Ricotta. C'est un type, d'ailleurs, qui est toujours en prison et qui s'est pris 30 ans de prison. Et Ricotta, c'était l'amant de Pasolini.
Ah oui, c'est vrai, il en parle, oui, je me souviens.
Et il en parle, il parle de l'assassinat de Pasolini, etc. C'est le seul qui est cité avec son nom. Mais Ricotta, en même temps, c'est un surnom, Ricotta.
Oui.
Voilà. Donc, c'est pas du fromage? Ah non,
avant
pardon,
de passer à un autre roman italien, on va se mettre un petit peu de musique qui a strictement rien à voir. C'est une chanson des Beatles. C'est, j'ai choisi parce que c'est une de mes chansons préférées des Beatles.
Tu fais comme tu veux, hein.
Exactement, voilà. Mais elle est chantée par les Inmates, donc c'est adapté en, plutôt en rhythm and blues. C'est un enregistrement qui date de 87, qui a été fait à la Villette, en France. Donc, pour les 20 ans, en fait, ce disque est sorti pour les 20 ans de l'album Sgt. Pepper's.
Et ce qui est terrible, c'est que c'est il y a 20 ans.
Et c'est donc il y a 20 ans, donc voilà, pas loin. Et la chanson s'appelle donc I'm Down. You tell lies thinking I can tell. You know I'm down. When you know I'm down. Vampire's ring, woman. Vampire's ring, woman throws it away. Same old thing happen every day. I'm down.
Oh bien voilà pour Andon. Et donc on reste en Italie avec d'un Allemand, donc traduit de l'allemand, qui s'appelle le romancier Veit Einichen ou Veit Einichen, je ne sais pas exactement. Ça s'appelle Les requins de Trieste et c'est paru à la collection Seuil Policier, chez Seuil Collection Seuil Policier. Donc Veit Einichen est donc, comme je viens de le dire, allemand, mais il vit depuis très longtemps à Trieste, qui est une ville, tout au moins pour moi, méconnue, qui est une région qu'on connaît peu, moins méditerranéenne que la plupart des autres villes italiennes, mais qui offre pour un roman policier, vous l'allez voir, beaucoup d'avantages. Le personnage, le protagoniste de ce roman, c'est le commissaire Laurenti. On est en 1999 et l'été s'annonce à peu près paisible et tranquille. En général, il se passe pas grand-chose à Trieste. Bon, il y a bien quelques petits démêlés familiaux quand sa jolie fille de 21 ans décide de se présenter à un concours de Miss. Un petit peu plus grave, il y a un jeune journaleux en quête de gloire qui fustige les services de la police, qui lui semble bien inefficace, contre la prostitution locale. On assiste à un comptage exact des prostituées dans la rue principale. Alors, des fois, il y en a 12, des fois, il y en a 13, mais il n'y en a pas plus que les années précédentes. Bref, ouais, ça fait...
Et puis, ce journaliste, en fait, c'est pas un très bon journaliste, et c'est surtout le fils d'eux qui a été placé dans ce journal de Trieste, un petit peu pour débarrasser son père...
Voilà, par piston, et qui est persuadé qu'avec quelques articles à sensation,
voilà, il aura le Pulitzer italien.
Donc, en dehors de ces petits tracas bien sympathiques, en fait, il y a surtout un bateau qui appartenait, vous allez voir pourquoi le passé, à Bruno de Kopfersberg, excusez-moi pour la prononciation, richissime homme d'affaires, et qui s'échoue dans des bassins de mytiliculture ou de conchiliculture, je ne sais plus. Ça, c'est pour montrer du vocabulaire, n'est-ce pas? Donc, sans personne à bord. Et ça rappelle à ce moment-là de bien mauvais souvenirs à Laurenti, au commissaire Laurenti, qui avait enquêté sans succès, 20 ans auparavant, sur la disparition en mer de la femme de Kopfersberg. Donc, et affaire qui est la seule affaire non résolue de qui est la seule affaire
aussi sa première
de Laurenti
et qui était à l'ouest après l'école de
voilà,
police.
Voilà, donc c'est vraiment de très très mauvais souvenirs. Il prend l'enquête en main et la première visite chez l'homme d'affaires ainsi que dans ses bureaux amène rapidement celui-ci, le policier et son équipe, à soupçonner le disparu de tremper dans des trafics internationaux de drogue et surtout le pire, d'émigration clandestine, ce qui va d'ailleurs rejoindre à certains moments
l'histoire
du journaleux, voilà. L'histoire de la prostitution. Donc, au bout de quelques jours, il repêche un corps qui porte les papiers de Kopfersberg, mais les suspects sont nombreux et on n'arrive pas trop, et Laurenti, en premier, n'arrive pas du tout à démêler les fils, parce qu'il y a beaucoup de suspects, le fils du noyé en particulier, qui, semble-t-il, reproche depuis des années
à son père, donc.
Aux disparus. Donc, il a quelques raisons de haïr son père. Et pour conclure, sans en dévoiler plus, on peut dire que, aussi bien en mer que sur terre, les requins rôdent autour de Trieste. Et ce n'est peut-être pas les poissons qui sont les plus dangereux.
Oui, parce qu'en fait, ça s'appelle aussi les requins de Trieste, parce qu'il y a un moment, tout au début du roman, où on découvre qu'il y a un requin qui... qui se promènerait au large de.
Apparemment, c'est assez fréquent.
Au large des plages de.
Voilà. Assez fréquent sur les. C'est assez fréquent sur les plages de Trieste en plein été.
Évidemment, en plein été, donc c'est pas très pratique pour la baignade. Hein,
Ça limite. Mais surtout, ça laisse planer un doute sur la disparition successive de madame et de monsieur Kotfersberg. Il y a beaucoup de qualités. Et à commencer par le personnage du commissaire. On était habitué depuis quelques années à beaucoup de ses collègues romanesques, déprimés, en proie à des crises existentielles, des problèmes personnels, des problèmes dans leur couple. Et lui, non, il n'est pas du tout déprimé par la criminalité, la société actuelle. Bon, encore une fois, il a des petites moustiques.
Avec sa fille ou avec sa femme qui voudrait déménager, des nuisances sonores du restaurant d'en dessous.
Enfin, voilà, bon, mais
ça reste
bien vite.
Banal.
Surtout que régulièrement, quand il a envie de se détendre, il va faire un plongeon dans l'Adriatique, qui semble des moments absolument fantastiques, avec ou sans requin d'ailleurs. Et puis, un autre atout de ce livre, c'est la découverte donc de Trieste, une ville méconnue, apparemment au charme désuet et qui vit sur ses fastes passés. Malheureusement, une situation géographique idéale pour les trafics actuels avec les pays de l'Est, et tout particulièrement l'Albanie, dont la mafia s'avère particulièrement redoutable. Donc dans ce roman, c'est surtout j'ai déjà dit tout à l'heure, et l'importation des filles de l'Est, qui est décrite avec beaucoup, beaucoup de précision par l'auteur.
D'ailleurs, dire importation des filles de l'Est, ça peut paraître bizarre, mais c'est exactement ça, c'est vraiment comme de la marchandise. Hein.
Voilà, c'est pour ça que j'avais employé ce mot, parce que c'est absolument terrible ce qui leur arrive, et aussi les ouvriers qui arrivent dans des containers fermés et dont les trois quarts sont morts en arrivant au port. Mais le gros avantage de ce roman, contrairement aux autres, c'est que il n'y a pas d'arrêt du récit. Le récit reste alerte, le récit reste rythmé, et même s'il nous décrit des tas de choses dont il, en tant que journaliste, puisque l'auteur est journaliste, il a dû bien se renseigner, ça n'enlève rien au rythme du récit, ce qui est encore, à mon avis, un avantage et un atout pour ce livre.
Et dernière apparemment, chose, cet auteur est assez connu en Allemagne et en Autriche.
C'est le premier.
Il y en a déjà quatre qui sont parus, ou trois peut-être.
On nous annonce la traduction des suivants.
Voilà, et j'étais regardé sur son site, il y en a effectivement quatre qui sont déjà parus en allemand et en anglais aussi d'ailleurs.
Et en Italie. On se retrouve
après les informations.